Débat du jour, Vincent Souriau.
Bonsoir à tous. En à peine 15 jours, Donald Trump a bousculé les États-Unis et la planète par sa personnalité, par sa manière de faire de la politique, par sa communication très personnelle et aussi par ses mesures controversées. Le décret anti-réfugiés, les critiques contre l'Europe, contre l'Allemagne et sa politique migratoire. Tout cela peut-il faire le sel des partis populistes en Europe? L'exemple Trump est-il vraiment un exemple et peut-il être suivi par les formations d'extrême droite en France, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas? C'est le débat du jour, bienvenue à tous.
RFI.
En studio ce soir, Alexandra de Hopscheffer, politologue et co-rédactrice en chef de la revue politique américaine. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Yves Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques Delors et président du mouvement européen France. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Avant de vous entendre tous les deux, un petit retour en arrière. 20 janvier, la cérémonie d'investiture à Washington, première déclaration de Donald Trump en tant que président des États-Unis.
Depuis trop longtemps, un petit groupe dans la capitale a joui des récompenses de l'État alors que c'est le peuple qui en a payé les coûts. Washington s'est développé, mais le peuple n'a pas pu partager sa richesse. Les politiciens ont prospéré, mais les emplois sont partis et les usines ont fermé. L'establishment s'est protégé lui-même, mais pas les citoyens de notre pays.
Première question à 100 000 dollars, Yves Bertoncini, Alexandra de Hopscheffer. Est-ce que Donald Trump est populiste?
C'est l'exacte définition du populisme. Moi, c'est un terme que je n'aime pas, mais là, on en a quand même vraiment une illustration. Il y a d'un côté le peuple, dans son intégralité, et de l'autre, les élites, qui sont donc corrompues, qui ne se servent qu'elles-mêmes. Avec un discours, d'ailleurs, totalement apocalyptique, qui tranche avec les discours d'inauguration. Les Américains souvent disaient, nous sommes la plus grande nation du monde, soyons fiers de nous, nous éclairons le monde, nous sommes les chefs du monde libre. Et là, il a un discours apocalyptique sur l'état de son pays, qui est très en phase avec ce que nous disent en Europe les extrémistes de droite, au fond, qui tout va mal, tout est foutu, et c'est la faute des élites. Donc, sur le fond, et même évidemment sur le style, ça fait évidemment directement écho aux extrémistes de chez nous, si je puis dire, qui ont d'autant plus tendance à accueillir cette divine surprise comme une source d'inspiration, qu'ils votent tous par procuration. Les extrémistes de droite, qui se réclament des peuples, perdent les élections. Ils ne gagnent nulle part. Et donc, ils ont absolument besoin de voter par procuration et de s'approprier les victoires dans d'autres pays. Et celle de Trump est évidemment éclatante parce que c'est dans le plus grand pays du monde, avec une influence, une image très importante, qu'elle est survenue.
Est-ce que c'est comme ça qu'il a gagné, Alexandra de Hopscheffer, en s'adressant directement au peuple?
Bien sûr que c'est comme ça. Il a su cristalliser les angoisses d'une grande partie de la population américaine en surfant sur un discours de résistance en fait à la mondialisation, d'où à la fois le volet protectionnisme économique et de l'autre côté aussi repli sur soi, guerre civilisationnelle contre l'islam. Et en fait, on le comprend beaucoup mieux en voyant ses dernières décisions, notamment la nomination de son chef en stratégie à la Maison Blanche, Steve Bannon, qui a été d'ailleurs son directeur de campagne. Et Steve Bannon, c'est très intéressant parce qu'il s'inspire mot pour mot pratiquement des populismes européens. Le discours protectionnisme, anti-mondialisation, la proximité avec la Russie, anti-immigration, il s'est directement inspiré des populismes européens. Donc c'est pour ça que j'inverserais même votre question. Trump s'est inspiré des populismes européens. Et d'où le lien. Et maintenant que Trump est élu, effectivement, on nous lance la question ici en Europe. Est-ce que maintenant l'élection de Trump va aider Marine Le Pen, va aider Geert Wilders aux Pays-Bas? Toutes ces questions se posent maintenant chez nous. Mais au départ, c'est Trump, par le biais notamment de Steve Bannon, qui s'est inspiré de l'Europe.
Effet miroir, Yves Bertoncini, du coup, on voit mal comment nos populistes en Europe pourraient ne pas en profiter.
D'abord, ça les galvanise naturellement. Hein, quand on vote par procuration et qu'on a l'impression qu'on gagne, ça donne du courage. Il y a évidemment des points communs à tout l'Occident. Hein, il y a une sorte de tectonique des plaques. qui comprime l'Occident, l'ouverture économique, l'ouverture culturelle, l'immigration, ce à quoi s'ajoute en Europe l'intégration politique au niveau supranational. Là, il y a un malaise identitaire de tous les Occidentaux, des Européens comme des Américains. Je dirais que tout de même, quand on veut faire de l'import-export, il faut regarder ensuite les différences. L'ouverture commerciale aux États-Unis, c'est violent. Si vous êtes un ouvrier américain, vous perdez votre travail, vous n'avez plus rien du tout. En Suède, c'est autre chose. En Europe, il y a un modèle social qui est quand même tout à fait différent, plus sophistiqué. Donc évidemment que l'ouverture commerciale américaine fait des dégâts colossaux et que dans certaines régions et dans certaines industries, il y a une colère populaire. D'autres différences. Une colère populaire qui s'est exprimée aux États-Unis contre l'industrie financière, Wall Street. La crise financière que nous connaissons, ce n'est pas les Européens qui l'ont inventé, les subprimes, c'est les Américains. La colère est d'autant plus vive. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui va se passer quand on verra? Bon, d'abord, évidemment, Donald Trump n'a pas gagné le vote populaire. Il y avait quand même 2 800 000
Hillary Clinton.
De retard. Mais il y a un système électoral très particulier. Donc, il est tout à fait pleinement légitime, mais il n'avait pas gagné. Les systèmes électoraux en Europe sont très différents, il faut quand même le dire. Donc déjà, la marche est plus haute pour nos extrémistes à nous, si je puis dire. Et puis, quand au-delà de Trump, qui envoie sa grosse caisse, et évidemment, sur les sujets migratoires, notamment... on voit des signaux très agréables aux oreilles de nos extrémistes. Mais quand on se rendra compte que l'administration de Trump n'est autre qu'une oligarchie plutocratique, il n'y a jamais eu autant de milliardaires au pouvoir. Est-ce que c'est ça que veulent les peuples de l'Europe? Nommer une autre élite avec des gens de Goldman Sachs, avec des gens qui étaient dans le pétrole, etc. Quand on verra, au-delà de Trump, qui incarne déjà ça, toute son équipe, quand on verra surtout leurs actes, quand on verra ce qu'il en sera, je veux dire, de sa popularité et de sa légitimité aux États-Unis, dans un pays où il y a des contre-pouvoirs, y compris à Washington, un parti républicain, eh bien on verra si le fait de lever cette hypothèque, parce qu'il faut à un moment lever des hypothèques, eh bien ça rend service ou pas aux extrémistes européens. Ben on va voir ça, on commence à regarder, il faudra attendre... dans 6 mois, par exemple, où on en sera, quand il aura commencé, et il a déjà commencé, à prendre des décisions. Bon, le mur avec le Mexique, c'est virtuel. En revanche, le Muslim ban, ça, c'est concret. Ça fait plaisir. On voit ce que ça dénote, les conséquences que ça a. Et puis, très honnêtement, pour lutter contre le terrorisme, c'est quand même une mesure totalement démentielle. Démentielle en termes d'efficacité, nulle. Et en termes de légitimité, c'est même pas subtil. Donc, est-ce que vraiment les peuples européens vont se dire « Oui, c'est ça qu'on veut, on veut exactement la même chose ?» Possible, mais est-ce que la majorité des peuples européens vont se dire ça? Moi, je suis assez trumpo-sceptique là-dessus.
Alexandra Dobscheffer.
Je pense effectivement, peut-être qu'on se trompe depuis le début en disant que Trump va justement galvaniser quelqu'un comme Marine Le Pen ou d'autres. Je soutiens effectivement la thèse opposée. Je pense que au fil des jours et des semaines, là quand même en l'espace de 2 premières semaines à la Maison Blanche, Trump montre qu'il remet en cause énormément de choses dans le système politique américain, mais aussi en Europe, mais aussi dans ses relations avec d'autres grandes puissances, la Russie, la Chine, et tout ça, forcément, ça va avoir un impact direct pour nous, Européens. Donc moi, je pense que peut-être la chance pour les prochaines élections qui vont avoir lieu en Europe, c'est que Trump a été élu avant et qu'on va constater que sa manière de faire la politique, sa méthode qui vise à contourner justement tous les contre-pouvoirs, la justice, le Congrès, les médias, est une méthode qui ne peut pas fonctionner aujourd'hui et qui ne fonctionne finalement que dans des systèmes autocratiques. Et donc pour moi, ça servira plutôt de contre-exemple. Et les populations françaises, néerlandaises, italiennes, allemandes, à mon avis, réfléchiront avant de voter.
C'est le discours pourtant de ces dirigeants politiques. Là, vous parlez des populations, mais eux, ces dirigeants, surfent sur ce discours aussi, anti-justice, anti-médias, anti-establishment. Donc finalement, on s'y retrouve de ce point de vue-là, d'un point de vue purement discursif. Mm-hmm. Donc peut-être que ça ne marche pas selon vous dans l'esprit des peuples, mais est-ce que ça peut quand même faire gagner des points électoraux à ces dirigeants extrémistes?
Bien sûr que ça peut faire gagner
des
points.
Comment vous analysez par exemple cette opération de communication de Marine Le Pen qui vient se montrer au pied de la Trump Tower? Quel est le message là-dedans?
C'est parce qu'elle a déclaré après son élection que c'était sans doute une des plus merveilleuses nouvelles pour les États-Unis qui ont regagné leur indépendance et que c'était une très bonne nouvelle pour elle. Et d'ailleurs Trump, si on inverse la tendance, présidence au moment du Brexit a dit que c'était une merveilleuse nouvelle puisque le Royaume-Uni s'émancipait du carcan européen. Donc c'est du discours, mais après effectivement voyons dans les faits comment cette présidence Trump va se développer dans les premiers jours, premières semaines. Regardons aussi l'impact pour nous européens. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la lettre de Donald Tusk, le président du Conseil européen qui a circulé parmi les États membres de l'Union européenne, c'est sa conclusion où il dit que l'Europe doit justement adopter peut-être non pas une stratégie d'affrontement par rapport à l'administration Trump, mais utiliser ça comme une opportunité. Et notamment sur le commerce, qu'à un moment où justement les États-Unis ont décidé de ne plus s'engager dans le traité transpacifique, eh bien peut-être que c'est une opportunité pour l'Union européenne qui est la plus grande puissance commerciale au monde, qui représente 20% du PIB mondial, c'est quand même énorme, devant la Chine qui représente 17% et les États-Unis environ 15%, eh bien peut-être que là, il y a quelque chose que l'Union européenne, en tant que première puissance commerciale, pourrait essayer de faire quelque chose sur lequel l'Union européenne pourrait capitaliser en multipliant justement les accords de libre-échange, les relations commerciales avec la Chine, avec les pays asiatiques. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut raisonner. Regardez ce qu'a fait Justin Trudeau au Canada. Il a dit, au lieu de s'opposer et de crier au scandale comme nous l'avons fait en Europe, alors effectivement, c'est assez scandaleux ce Muslim ban, ce décret qui vise à fermer l'immigration venant des pays musulmans, au lieu de véritablement le condamner, il dit, si vous voulez, le Canada va accueillir ces réfugiés qui ne peuvent plus aller aux États-Unis. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut raisonner, parce que rentrer dans une guerre commerciale ou une guerre diplomatique, ça nous desservira, nous, Européens.
Yves Bertoncini.
Oui, trois choses. Ce qui est intéressant dans la comparaison avec le Brexit, c'est que le Brexit, on en reste à l'état de virtualité. Il n'a pas eu lieu. Il va avoir lieu, bien sûr, le peuple britannique l'a souhaité, mais il n'a pas encore eu lieu. Et pourtant, le bazar que ça a créé au Royaume-Uni, le brouillard aussi dans lequel on est longtemps resté, avec Theresa May qui vient de clarifier un peu ses positions, a déjà été une contre-publicité sur le continent pour les europhobes qui prônent la sortie de l'Union européenne. Le FPÖ autrichien a perdu les élections présidentielles autrichiennes, notamment sur cet enjeu. Parce que il y a eu une confusion que d'ailleurs Trump fait aussi. Alors il a reçu Farage cette fois-ci.
Le président du UKIP.
Pas comme Marine Le Pen qui voulait peut-être plus et qui a dû se contenter d'un café en bas. Elle aurait voulu plus qu'un vote par procuration. Elle aurait voulu être reçue, mais elle n'a pas été reçue. Mais où il y a eu une confusion, c'est que les peuples européens sont évidemment eurosceptiques. Beaucoup plus qu'avant, pour des raisons très différentes d'ailleurs. Au sud, on pense que l'Europe, c'est trop d'austérité, au nord, c'est trop de solidarité. Mais ils ne sont pas europhobes. Les Autrichiens, ils ne voulaient pas sortir de l'Union européenne, les Grecs non plus d'ailleurs, à l'époque où ils auraient pu. Donc il y a cette première confusion, mais on reste dans la virtualité du Brexit. Tandis qu'avec Trump, on est dans les actes concrets. Le fait que on bannit des musulmans, mais sans distinction, de 7 pays, qui d'ailleurs ne sont pas du tout les 7 pays d'où venaient les terroristes du 11 septembre, c'est juste à côté. Donc tout ça est concret. Franchement, est-ce que c'est une bonne publicité? Pas sur l'idée qu'il faut lutter contre le terrorisme islamique, bien sûr qu'il faut lutter énergiquement, mais que c'est comme ça qu'on va y arriver. Je suis pas sûr. Ensuite, on part dans les enjeux plus virtuels, mais de protectionnisme commercial, ou l'idée que le changement climatique, c'est une foutaise. Bon, est-ce que les Européens, dans leur majorité, pensent que le changement climatique est une foutaise? Je ne crois pas. Mais restons sur le commercial. Peut-être que Trump peut engager une guerre commerciale. Peut-être. Le taux d'ouverture des États-Unis n'est pas du tout le même que le taux d'ouverture des Européens. C'est pas un pays si ouvert que ça. C'est un pays qui, énergétiquement, est beaucoup plus indépendant que les Européens. Ce n'est pas un pays qui a un problème monétaire, alors que nous, en Europe, on est intégrés monétairement. Et donc, ce qui va exister pour les forces extrémistes européennes, c'est cette espèce de difficulté à dire on peut importer directement, concrètement, ce que Trump fait, parce que la situation est très différente. Trump, c'est un pays qui n'a que 2 frontières terrestres, 2 voisins, 2, visiblement avec des problèmes au Mexique, qui va amplifier. Bon, c'est pas du tout la même chose en Europe. Donc, il y aura aussi ce test de réalité pour les extrémistes européens quand ils vont dire, mais on peut faire exactement pareil, même si, effectivement, à court terme, ça peut les servir. Mais surtout, je crois qu'il y a une troisième chose qui est très importante et qu'effectivement, la lettre de Donald Tusk permet d'entrevoir. Jusqu'ici, il y avait un Occident. S'il n'y a plus d'Occident, parce que Donald Trump n'incarne plus les valeurs occidentales. Alors qu'est-ce qui reste? Eh ben, il peut rester une Europe. Je dis bien, il peut rester une Europe. Il peut rester une Europe. Il peut y avoir cette idée que ben oui, du coup, il faut vraiment s'y mettre, nous Européens, l'Union fait la force, parce que y a Poutine, il y a l'État islamique, il y a le chaos partout, et puis Trump n'est pas une menace à ce stade, mais il ne veut plus nous protéger, donc prenons-nous en main. Et ça, c'est quand même un réflexe qu'on voit poindre ça et là. Je ne veux pas faire trop de wishful thinking, comme on dit en mauvais français, mais c'est quand même un réflexe qu'on voit poindre ça et là sur l'idée, arrêtons de déconner là, hein, franchement, ne foutons pas en l'air l'euro, parce que de toute façon, ça serait encore plus de désordre, et ça c'est aussi une barrière d'espèce, hein, pour les partis extrémistes. Ce sont des partis de l'ordre, mais sortir de l'euro, c'est le bazar. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais au-delà de ça, la géopolitique devient tellement imprévisible, tellement instable, que c'est peut-être pas le moment d'en revenir à notre quant à soi national. Évidemment, c'est une tentation, parce que si personne ne contrôle plus rien, le repli, c'est sur les bonnes vieilles frontières nationales, même si en France, elles n'ont jamais rien protégé, hein, la ligne Maginot, on a vu ce que ça avait donné. Mais il y a une réponse haute qui est en train de s'esquisser. Je dirais que la célébration des 60 ans du traité de Rome est propice à ce esquisse d'une nouvelle vision. Eh bien oui, peut-être que puisqu'il n'y a plus d'Occident, nous, Européens, prenons-nous un peu en main, incarnons quelque chose, un projet collectif, mais aussi un modèle, parce que nous, les Européens, ce n'est pas le Trumpisme, effectivement, ce n'est pas que le profit, ce n'est pas que ça, c'est la cohésion sociale, c'est la protection de l'environnement. Puis ce sont des valeurs, le respect des minorités, l'état de droit, que M. Trump n'incarne plus du tout. Et je veux dire, c'est très violent, parce qu'il y a un mois, c'était Barack Obama qui, lui, au contraire, c'était le grand frère d'Amérique.
Est-ce que ça peut se retourner contre les partis populistes? Parce que là, on voit que c'est une source d'inspiration parallèle, qu'ils se renvoient la balle en termes de politique et d'inspiration politique. Finalement, ce qu'on pourrait dire des propos d'Yves Bertoncini, c'est que ça va se retourner contre Donald Trump et aussi contre les Européens, qui vont finir par lutter contre l'homme dont ils se sont inspirés et vice-versa.
Oui, et puis c'est surtout qu'en fait, je voulais revenir à la notion de valeur. Le système de valeurs qu'on avait l'habitude de défendre, hein, depuis des décennies, qui constituait en fait la communauté transatlantique, incarnée par cette relation transatlantique et l'alliance atlantique qui est l'OTAN. Et je pense que l'Union européenne, malheureusement, ne peut pas prendre le relais de ce flambeau. Obama a fait son dernier voyage. Ou ça en Allemagne, Merkel, en disant Angela Merkel, maintenant c'est à toi de prendre le flambeau de l'ordre libéral international. Qu'est-ce que l'on constate, c'est que ça arrive au pire moment pour l'Union européenne, puisqu'on est nous-mêmes rongés par la montée des populistes. Regardez ce qui se passe en Pologne, en Hongrie, dans tous ces pays où là aussi le système de valeurs que normalement l'Union européenne défend est lui-même menacé. Et là, c'est très problématique, parce que vous avez une Amérique avec un Trump qu'on vient de décrire, et une Union européenne qui est également rongée par cette montée de populisme, de protectionnisme économique et de rejet de la mondialisation, du libre-échange, et qui rejette en partie ces valeurs démocratiques. Donc qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? Et ça, je pense que dans toute l'histoire, je dirais, de la géopolitique, l'histoire mondiale, on n'a jamais atteint une telle remise en cause de l'ordre libéral international, ou de ce qu'on appelait l'ordre libéral international post-seconde guerre mondiale. Qui en profite? On le voit très bien. C'est Poutine. D'ailleurs, Poutine, aujourd'hui, s'est rendu où ça? En Hongrie, pour rencontrer Orban. Voilà. C'est pas anodin comme geste politique. La Chine, qui propose de prendre le relais de la Pax Americana et qui défend tout d'un coup le multilatéralisme, le libre-échange et des idées quasi démocratiques. Tous ces pays-là qui finalement surfent sur ces fractures du camp transatlantique. Donc là, il y a une vraie, je dirais, inquiétude, puisque ni l'un ni l'autre n'est véritablement capable d'être le porte-parole de cet ordre libéral international qu'on a construit ensemble. Là, c'est un vrai sujet.
On s'arrête là. Malheureusement, c'est déjà fini. Merci beaucoup, Alexandra de Hopscheffer, politologue, co-rédactrice en chef de la revue Politique américaine. Merci beaucoup. Merci à vous, Yves Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques Delors et président du Mouvement Européen France. Le débat du jour à retrouver sur notre site internet RFI.fr. Un grand merci aussi à Quentin Bresson qui a réalisé cette émission et à Florence Pons qui m'a aidé à la préparer. On se retrouve bientôt. La semaine prochaine, c'est Anne Spouetmont qui reprend le micro. Elle sera revenue de vacances, la vénarde. Allez, l'info dans 30 secondes maintenant, restez avec nous. RFI.